Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y avait un jour dans un monastère un moine qui s'appelait Jean. Jean de Saint-Facon. Vous savez ce que c'est qu'un monastère ? Hein, c'est un ensemble de maisons, de bâtiments où vivent des moines. Des moines, ce sont des hommes qui se sont réunis pour vivre que pour Dieu. Ils ont quitté le monde, quitté leur famille, pour ne vivre que pour le bon Dieu. Voilà. Toute la journée, que font-ils? Eh bien, ils honorent le bon Dieu, très souvent, d'abord par la Sainte Messe, ils rendent à Dieu l'honneur, la gloire qui lui est due. Et puis, très souvent dans la journée, ils se réunissent au cœur de l'Église et ils chantent des psaumes à Dieu. Voilà. Et de cette façon, ils attirent de nombreuses grâces sur le monde. Voilà, toute leur vie, ils font ça. Bien sûr, ils travaillent entre deux. Il y en a qui font la cuisine, il y en a qui font le jardin, il y en a qui font la lessive, enfin tout ce qui est nécessaire pour vivre. Mais ils offrent la plus grande partie du temps au bon Dieu, pour le louer. Pour être agréable à Dieu, pour prier pour tous ceux qui ne prient pas pour lui. Alors, dans ces monastères, il y a de ceux qui sont prêtres et de ceux qui sont frères. Et alors donc, il y avait dans un monastère un moine qui était différent des autres. Lui, il aimait tellement dire la messe qu'il était impatient de voir le matin arriver et de très bonne heure, il allait dire la messe. Cependant, quand il disait la messe, ça n'en finissait plus. Ça durait longtemps, si bien que les servants de messe n'en pouvaient plus. Ils étaient irrités, et quelquefois, ils allaient s'asseoir. Et un jour, ils se sont dit, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, tout d'un coup, ils partaient. Ça durait plus qu'une heure. Messe basse, silencieuse, sans serment, plus qu'une heure, même des fois plus que deux heures. Alors, c'était quand même, les servants n'en pouvaient plus. Et alors, Jean de Saint-Facon, il s'aperçoit qu'il n'y avait plus de servants, et qu'il n'y avait plus personne pour répondre à sa messe. Alors il va voir le supérieur, puis il dit, « Monsieur le supérieur, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Les servants, ils ne restent pas à ma messe, ils s'en vont. Je ne sais pas pourquoi. »« Oh, mais moi, je sais bien pourquoi. La messe est beaucoup trop longue. »« Il ne faut pas dire les messes si longtemps que ça, quand même. Il faut faire comme les autres moines. Dites la messe plus courte. » Alors, dès aujourd'hui, je vous donne l'ordre, vous direz la messe comme les autres, et pas si longtemps. » Alors, à ce moment-là, les servants resteront. Alors, le moine s'en va. Et le lendemain, il essayait de dire la messe aussi vite que les autres aussi. Mais au bout de quelques jours, il n'a pas pu tenir. Il vient voir le supérieur, il se met à genoux devant lui, puis dit, « Oh, s'il vous plaît, permettez-moi de dire comment va la messe. Il n'y a rien à faire, qu'à obéir, qu'à rester à dire la messe comme les autres. » Ah, mais vraiment, je peux pas, c'est trop pénible, j'en souffre trop. Quand même, c'est pas possible, les autres moines n'y souffrent pas. Qu'est-ce que tu as? Ah, mais j'ai une raison profonde. Eh bien, qu'est-ce que tu as comme raison pour que tu fasses si longtemps ta messe? Ah, je peux pas vous la dire. Eh bien, alors tu feras comme les autres. Je peux vous la dire qu'en confession. Il voulait la dire en confession parce que quand on dit quelque chose en confession, le prêtre n'a pas le droit de répéter à personne ce qui a été dit en confession. S'il fait ça, il fait un péché très grave, si grave, qu'il n'y a que le pape qui peut absoudre ce péché. Donc il n'a jamais le droit de dire rien du tout. Alors le moine s'est dit, si je le dis en confession, il pourra dire à personne d'autre. C'était mystérieux. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à dire? Alors, le supérieur va l'écouter en confession et mon confessionnal. Ça dure un moment. Ça a duré longtemps. Les moines étaient surpris. Vraiment, c'est un homme mystérieux que ce genre de Saint-Facon. Et au bout d'un moment, il ressort du confessionnal. Le supérieur était tout drôle. Et depuis ce jour-là, vous savez, le supérieur n'était plus le même. Et au contraire, il vient vers les moines, puis il leur dit, « Ceux qui doivent servir la messe du moine Jean de Saint-Facon, et vous resterez à la messe aussi longtemps qu'elle durera. Même si elle doit durer toute la journée, vous resterez toute la journée. Le Supérieur a perdu la tête. Après, il nous avait dit qu'il fallait, qu'il nous avait soutenus en disant, mais il ne faut pas rester. Et maintenant, il nous dit qu'il faut rester, même s'il faut rester toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la tête. Il faut le remplacer. Ça ne va plus un supérieur comme ça. Et d'ailleurs, le supérieur, quand il célèbre la messe, il était tout différent. Alors, il y avait les moines se posaient des questions. Ils se demandaient bien ce qui pouvait se passer. Puis on ne leur disait rien. Puis un jour, ils ont insisté auprès du supérieur. Mais enfin, quand même, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous me disiez qu'est-ce qui se passe. Alors le supérieur ne pouvait rien dire puisqu'il avait le moine lui avait parlé en confession. Il ne pouvait rien dire. Il était bien ennuyé. Alors le supérieur va voir ce genre de Saint-Facombe et il dit, écoutez, il faut que vous me permettiez, que vous me donniez l'autorisation de dire ce que vous m'avez dit en confession. Alors Jean n'était pas tellement content, parce que c'était des choses qu'il ne voulait pas que ça se sache. Mais enfin, le supérieur a insisté, il a permis. Alors un soir, le supérieur réunit tous les moines du monastère et il leur dit, voilà, « Eh bien mes frères, je vais vous dire pourquoi Jean de Saint-Facombe dit la messe si longtemps. C'est que pendant la messe, Jésus-Christ lui apparaît encore avec son corps en chair et en os, et il lui explique tous les mystères qui se réalisent pendant la messe. Des mystères tels que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. Et il m'en a parlé, pour le peu qu'il m'en a parlé, j'étais tout renversé. Oui. Des mystères si admirables qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors, pendant cette messe, Jésus lui parle, lui explique tous ces mystères. Il y a des mystères, c'est infini. Alors voilà. Depuis ce jour-là, eh bien, je ne dis plus la même chose, la messe. Et si vous saviez, disait le Père supérieur, si vous saviez ce qui se passe à la messe, eh bien, vous n'en manqueriez jamais une. Et vous ne craigneriez pas de rester des heures entières à entendre la messe. Tellement c'est des mystères admirables. Oui. On verra ça au ciel. Et encore, peut-être qu'on ne comprendra même pas tout. Au ciel, les mystères qui se réalisent pendant la messe. Et oui, pendant la messe, Jésus renouvelle tous ses mystères, le mystère de l'incarnation. Et oui, on va bientôt célébrer la fête de Noël. À chaque messe, Jésus renouvelle son incarnation dans la Sainte Hostie. Oui. Mystère de la rédemption, bien sûr. Et tous les autres mystères, tout ce que Jésus a fait sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus sur la terre? Il a changé à Cana l'eau en vin. Il fait encore quelque chose de bien plus admirable à la messe. Il ne change pas l'eau en vin, il change le vin en son précieux sang. C'est bien plus grand comme miracle. Qu'est-ce que faisait Jésus encore? Il allait prêcher partout dans la Palestine, prêcher la doctrine. Eh bien, à la messe, on a la lecture de l'Évangile, on a la lecture de l'Épître. Et tous les mystères, on ne sait pas tous les mystères qui se réalisent à la messe. Oui. Voilà, eh bien, demandons à la Sainte Vierge, et puis aussi à Jean de Saint-Facombe qui est au ciel, eh bien, de nous aider à profiter et à approfondir toujours plus la Sainte Messe. C'est vraiment le cœur de l'Église, c'est vraiment le trésor des trésors. C'est le plus grand trésor que le bon Dieu nous ait donné sur la terre. Il n'y a pas de plus grand trésor. Alors demandons bien à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à bien comprendre et à profiter de plus possible, à rester bien recueillis, à ne pas nous laisser distraire, à ne pas penser à autre chose à la messe que ce qui se réalise, qu'être unis à ce Saint Sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous annonce une grande joie. C'est ce qu'avait dit l'ange au berger de Nazareth quand il est apparu dans une tout entourée de lumière et les bergers tremblaient, effrayés. Car il est né, il vous est né un sauveur. Et vous le reconnaîtrez, vous le trouverez couché dans une crèche. Et si votre ange vous disait, mon enfant, je t'annonce une grande joie, imaginez ce que vous penseriez. Eh bien, si votre ange ne vous le dit pas, c'est la foi qui doit vous le dire. Oui, je vous annonce une grande joie, car un sauveur va naître pour ton salut. Nous avions vu les dernières fois qu'à la messe se réalisent tous les mystères de Jésus. Et à chaque messe, Jésus naît à nouveau. Et donc, c'est une grande joie. L'ange ne nous dirait pas maintenant, vous le verrez couché dans une crèche, mais vous le verrez sous la forme d'une hostie. Oui, cette petite hostie blanche, eh bien, ce sera le même Jésus qui était couché sur un peu de paille à la crèche de Bethléem. Vous vous souvenez de ce qu'avait vécu Jean de Saint-Facon, à qui Jésus expliquait tous les mystères lorsqu'il célébrait la messe. Jean d'Alverne aussi, qui était tombé évanoui pendant la messe. Ce qu'avait dit Jésus aussi lui-même à Sainte Gertrude, qu'à chaque messe il renouvelait son incarnation, donc sa naissance aussi. C'est pas seulement à des saints que Jésus est apparu. Un jour, c'était au temps de Charlemagne. Charlemagne, vous avez entendu parler, le grand Charlemagne, qui avait essayé d'étendre la religion, de faire connaître le christianisme un peu partout en Europe. Et il avait été plusieurs fois dans un pays de Germanie, dans une région de Germanie qu'on appelle la Saxe. Et les gens de cette région les appelaient les Saxons. Parce qu'ils appelaient ce pays, ils habitaient cette région de la Saxe. Et voilà que Charlemagne était allé de nombreuses fois. Et pour la deuxième fois, il est retourné avec ses armées dans cette région. Et chaque fois qu'il y allait, il y avait des gens qui se convertissaient. Mais le duc de Saxe, qui s'appelait Witikind, lui, il ne voulait pas se convertir. Et alors, il faisait du mal à ceux qui s'étaient convertis. À certains, il faisait perdre la foi, parce qu'il était dur avec. Il ne voulait pas se convertir, il était resté païen. Et voilà que Charlemagne revient avec ses armées dans cette région de Saxe. Et puis, on approchait de la fête de Pâques, il y avait la période du carême. Et Witikind s'était très surpris de voir que ses soldats ne se comportaient pas la même chose pendant cette période que pendant les autres périodes de l'année. Ils étaient beaucoup plus réservés, beaucoup plus silencieux. Alors, il aurait bien voulu aller voir ce qui se passait dans ce camp de l'armée de Charlemagne. Alors il lui vient une idée. Il enlève ses beaux habits de duc de Saxe et il se revêt d'un pauvre manteau de mendiant. Et avec un capuchon, ils avaient un manteau très usé, très vieux, en général les mendiants. Et il s'était joint, parce qu'il y avait toujours des mendiants à cette époque, qui allaient demander un peu l'aumône. Alors il s'est mis dans le groupe des mendiants et ainsi il a pu entrer dans le camp sans être remarqué, dans le camp de l'armée de Charlemagne. Et il observait un petit peu, tout en demandant l'aumône, il observait un petit peu ce qui se passait. Il voulait savoir, il voulait découvrir qu'est-ce qu'il y avait qui faisait que cette armée était si recueillie, si silencieuse. Et puis, il est allé assister aux offices le Vendredi Saint. Tous les soldats s'étaient réunis pour les offices du Vendredi Saint. Et puis ils se confessaient, tous se confessaient. Ravitikin découvrait ça, très surpris. Et le dimanche de Pâques, bien sûr, l'atmosphère était différente. Il y avait une grande joie qu'il n'y avait pas tout avant, auparavant. Et les soldats entraient dans l'église pleins de joie. Alors lui aussi, il se met au groupe, avec les groupes des mendiants et il entre dans l'église sans se faire remarquer. Alors il observe, qu'est-ce qui se passe? Il voit arriver le prêtre qui monte à l'autel. Bon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il fait un dessin de la croix, il fait des inclinations, il lit les passages. Bon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Et tout d'un coup, il voit que le prêtre élève les bras, et dans ses bras, il avait un enfant si beau qu'il n'en avait jamais vu, un bel enfant. De plus en plus étonné, il regardait, et il continue, la cérémonie continue, et au bout d'un moment, le prêtre se tourne vers les soldats, tous les soldats s'approchent, ils viennent au banc de communion, et le prêtre vient et il donne à chaque soldat cet enfant, à chaque soldat. Et il voit que vers certains soldats, cet enfant Jésus s'empressait, se tendait les bras, se réjouissait d'aller. Et vers d'autres soldats, quand le prêtre présentait cet enfant, eh bien l'enfant se débattait. Des pieds, des mains, il ne voulait pas. Il se rebiffait. Mais il devait quand même aller. Parce que... Et alors, à la fin de la cérémonie, il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas quoi penser de ça. Alors, il se met dans le groupe de nouveau, il reste toujours dans le groupe des mendiants, et après la messe, il va dans la cour extérieure, et puis il essaye de voir un peu ce que disent les gens. Qu'est-ce que pensent les gens de cette cérémonie? Et personne n'en parlait, spécialement. Les gens étaient tous très heureux, les soldats étaient heureux, mais personne n'en parlait. Et tout d'un coup, c'est l'empereur Charlemagne qui sort de l'église. Et lui, eh bien, il faisait souvent l'aumône à ces pauvres mendiants. Alors il passe, il commence à donner à tous ceux qui tendaient la main une pièce d'argent, une pièce d'or. Voilà. Et tout d'un coup, le serviteur qui était avec Charlemagne lui fait remarquer, dit, attention là-bas, ce mendiant, c'est pas un mendiant comme les autres. Ça, vous voyez, il a un doigt tordu. Ça, c'est Vitikin, ça. Moi, je le reconnais. Il a eu une fois le doigt qui s'était gâté à la bataille, et depuis, il était resté tordu. Alors, Charlemagne fait semblant de rien, puis quand il s'approche, il dit, « Et donc, toi, pourquoi te caches-tu sous ces habits de mendiant? Tu es bien le duc de Saxe, Vitikin. » Alors, il commence à trembler, parce qu'il a pensé que Charlemagne l'avait découvert et qu'il s'était infiltré comme un espion. Alors si, dans ces cas-là, ils se font enfermer et quelquefois ils se font mettre à mort. Alors il dit, « Sire, ne prenez pas mal, je n'ai pas voulu faire de mal, seulement voilà, j'ai voulu essayer de voir ce qui se passait chez vous, car j'étais très impressionné de l'attitude des soldats. » Alors Charlemagne lui dit, « Qu'est-ce que tu as vu ?» Alors, Vitikin lui explique tout ce dont il a été témoin et ce qui a assisté à la messe. Et il dit, « Bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas plus ému que cela d'un tel événement. » Bien sûr, les soldats et Charlemagne n'avaient rien vu de tout cela. Ils n'avaient pas vu que le prêtre avait élevé un enfant, ils avaient vu que le prêtre avait élevé l'hostie. Ils n'avaient pas vu que le prêtre avait donné l'enfant Jésus. Ils avaient vu que le prêtre donnait l'hostie. Mais le bon Dieu avait permis à Vitikin, qui était un païen, endurci, de voir ce qui s'était passé, ce qui se passe à la messe. Eh bien, voyez quel bonheur nous avons. Voyez, chaque messe que nous assistons, bien c'est ça qui se réalise. Et c'est la foi qui nous dit cela. C'est notre foi qui nous dit, oui, je vous annonce une grande joie, car un sauveur, le sauveur va naître pour votre salut. Oui, le sauveur de votre âme va naître dans quelques instants. Et bien plus, vous allez le recevoir dans votre âme par la Sainte Eucharistie. Oui. Alors, comment est-ce que Jésus veut venir dans nos âmes? Quand vous allez recevoir la communion, la petite hostie, comment pensez-vous que Jésus va être? Est-ce qu'il va se réjouir de venir dans votre âme? Ou bien est-ce qu'il va un petit peu se rebiffer? Alors, si vous avez un grand désir de recevoir Jésus, lui aussi, il a le grand désir de venir dans les âmes qu'il aime et qui le désire. Alors, chaque fois que vous approchiez de la table sainte, ayez déjà un grand désir. Dites à Jésus, « Oh, je me réjouis que vous veniez dans mon âme. Je vous aime et je voudrais tant vous aimer de tout mon cœur. » Voilà ce qu'il vous faut dire. Demandez à la Sainte Vierge de vous accompagner, à votre ange gardien, de préparer votre âme à recevoir dignement cet enfant Jésus. Oui, pensez-y. Demandez aussi à Jésus, quand vous le recevrez dans la communion, qu'il augmente votre foi. Plus vous aurez la foi, plus vous vous rendrez compte de ces mystères qui se réalisent à chaque messe. Oui, quel bonheur c'est pour nous de pouvoir vivre, de pouvoir être unis au mystère de Dieu par ces cérémonies que nous avons, spécialement par la Sainte Messe. Alors demandons cette grâce à la Sainte Vierge. Demandons aussi à tous ces saints, à ces bergers, voyez, aux rois mages, à ce vieillard Siméon qui ont porté l'enfant Jésus dans leurs bras et qui ont été tellement contents. Et demandons-leur cette grâce de pouvoir apprécier toujours plus la Sainte Messe, de pouvoir comprendre que les mystères de Dieu se réalisent et aussi de pouvoir avoir toujours un plus grand désir de recevoir la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez certainement été très heureux pendant ces vacances, non pas parce que vous aviez congé, aussi peut-être, mais surtout, je pense, pour cette fête de Noël que vous avez célébrée en famille. Vous êtes réjouis autour de la crèche et vous aviez raison de vous réjouir de cette fête puisqu'elle nous rappelle, c'est l'anniversaire. L'anniversaire qui nous rappelle que l'enfant Jésus est né, il est venu sur la terre, il s'est incarné. Et vous avez pu contempler tous ces bergers qui sont venus adorer l'enfant Jésus. Et puis plus tard, les rois mages qui sont venus de loin, qui ont marché pendant longtemps pour adorer cet enfant Jésus. Peut-être que vous vous êtes dit, « Oh, si nous avions pu être les bergers, quel aurait été notre bonheur si nous avions pu nous mettre dans un petit coin de la crèche et puis regarder ce qui se passe. Nous aurions été contents. » C'est vrai qu'on aurait été contents. Et pourtant, vous vous rappelez de la dernière fois, je vous avais parlé de ce religieux, de ce moine, le bienheureux Jean de Saint-Facon, qui mettait si longtemps pour dire la messe, parce que pendant la messe, il avait le bonheur de voir Jésus, qui lui expliquait qu'à la messe, tous les mystères se réalisent. Un jour, c'est Jésus qui disait au bienheureux Alain de la Roche. Le bienheureux Alain de la Roche, c'était un religieux qui a redonné la dévotion au rosaire. Vous savez que le rosaire, nous l'avons de Saint-Dominique. Et puis, avec le temps, les gens ont négligé, ils priaient de moins en moins le chapelet. Pour finir, ils ne priaient plus. Ce grand moyen que la Sainte Vierge nous a donné. Alors le bienheureux Alain de la Roche a donné de nouveau la ferveur, la dévotion au rosaire. Il parlait partout de cette belle prière. Mais un jour, Jésus est apparu au bienheureux Alain de la Roche et il lui a dit « Comme j'ai pris un corps humain et que je suis devenu homme dans la très sainte Vierge Marie, de même, à chaque messe qui se célèbre, je renouvelle l'incarnation. » Voyez, quand on fête Noël, On rappelle, on dit voilà, il s'est passé il y a 2000 ans, Jésus est né à la crèche, et on rappelle chaque année. C'est un rappel. Tandis qu'à la messe, c'est pas un rappel. Ça se renouvelle, comme dit Jésus au bienheureux Alain de la Roche. Alors saint Augustin s'écriait, lui, « Oh, quelle est grande la dignité du prêtre, dans la main duquel Dieu s'incarne à nouveau, se fait de nouveau homme. » Et saint Augustin continue en disant, « Oh, quelle est grande la dignité des fidèles qui peuvent participer, qui peuvent assister à ce renouvellement du mystère de l'incarnation. Ah, si nous avions un peu de foi, voyez. Nous n'envierions pas les bergers. Nous avons plus de chance que les bergers de la grotte. Oui. Les bergers sont allés, peut-être plusieurs fois, adorer l'enfant Jésus, parler avec la Sainte Vierge. Ils étaient tout heureux. Ils revenaient chez eux toujours pleins de joie. Et nous avons plus de chance qu'eux. Chaque messe, c'est la même chose qui se passe de nouveau. Et à quel moment de la messe Jésus renouvelle ce mystère de l'incarnation? Eh bien, quand le prêtre prend une petite hostie dans sa main, cette petite hostie, c'est du pain, et qu'il prononce les paroles, à ce moment-là, le petit morceau de pain se change au corps de Jésus. C'est un miracle qui se passe sur nos yeux. On aimerait bien voir. Pourquoi le bon Dieu a fait qu'on ne voit pas ça? Ça aurait été quand même plus intéressant. Mais parce que le bon Dieu, il veut que nous gagnions davantage de mérite. Si nous pouvions voir ça, nous n'aurions pas les mérites que nous donne la vertu de foi. Nous devons croire ce que nous ne voyons pas. Mais les bergers de la crèche ont aussi dû croire ce qu'ils ne voyaient pas tellement. Ils ont vu quoi? Un enfant comme les autres enfants. Mais ils ont cru que l'ange, à la parole de l'ange qui leur a dit que cet enfant c'est le Messie. Alors ils ont cru aussi que cet enfant c'était le Messie. Ils ont dû avoir la foi. Eh bien nous aussi, nous croyons que cette petite hostie que le prêtre élèvera, ce n'est plus le pain que le prêtre avait pris au début de la messe, mais c'est devenu le corps de Jésus. Quel bonheur! Nous avons de la chance. Et ça se réalise à chaque messe. C'est pas un mémorial ou un souvenir. Se réaliser, comme avait dit Jésus au bienheureux Alain de la Roche. Il y avait un autre religieux à qui il est arrivé aussi quelque chose d'extraordinaire. C'était aussi un bienheureux Jean, mais pas de Saint-Facon, Jean d'Alverne. Lui avait une grande foi et il essayait toujours de grandir dans cette vertu de foi en essayant de croire toujours davantage qu'est-ce qui se passe à la messe. Et cette foi était telle que chaque fois qu'il célébrait la messe, intérieurement, il était tout remué et il sentait ses forces s'affaiblir. Et un jour, c'était la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge. On fêtait avec beaucoup de solennité cet anniversaire. Et on avait dit, eh bien, aujourd'hui, c'est Jean d'Alverne qui célébrera la messe de l'Assomption, grande messe chantée. Alors tout le monde assistait, tous les religieux, le supérieur, etc. Et au commencement de la messe, le bienheureux Jean d'Alverne, il commençait à sentir de nouveau des émotions, à sentir que ce que sa foi lui faisait croire. Et en effet, plus il s'approchait de la consécration, plus il approchait de ce moment-là, plus ses forces sentaient s'affaiblir. Et lorsqu'il prend l'hostie, il prononce, il commence à prononcer les paroles de la consécration. Hoc est. Et il n'arrivait plus à continuer. Alors il recommence. Hoc est enim. Et à ce moment-là, il n'arrivait plus. Alors les pères qui étaient dans les bancs, les premiers bancs, le supérieur et un autre, ils ont vu que ça n'allait pas. Tout de suite, ils sont allés vers lui, ils le voyaient chanceler pour le soutenir. Et puis, il reprend. Hoc est enim corpus meum. Et à ce moment-là, ils ont dû le tenir vraiment, il allait tomber. Et puis, il a continué, il a essayé de continuer. Et une fois qu'il a consacré le calice, à ce moment-là, il est tombé, il a perdu connaissance. Ils ont dû l'amener à la sacristie, ils ont cru qu'il était mort. Il était raide, bougeait plus, ses mains étaient crispées. On a essayé de le réveiller, on a mis un peu d'eau froide sur les joues. On a essayé de prendre certains sels, et on met des sels qu'on fait respirer pour provoquer une réaction, pour faire revenir le religieux à lui. Rien à faire. Et au bout de plusieurs heures, enfin, il reprend ses esprits. Alors tout le monde était là autour, il pleurait déjà en pensant qu'il était mort. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un malaise? Alors il leur a dit, bien que déjà au début de la messe, ça commençait à mal aller, mais que quand il a prononcé les paroles de la consécration, quand il avait prononcé les paroles pour consacrer l'hostie, à ce moment-là, l'enfant Jésus lui est apparu. Et l'enfant Jésus lui a expliqué de quelle humilité il a fallu pour lui afin de venir sur la terre et quel amour il a eu aussi pour venir sur la terre, se faire homme pour nous racheter. Et la manière dont il a expliqué Jésus a été telle qu'il n'en a pas pu résister, il est tombé, il a perdu connaissance. Si nous pouvions comprendre, c'est ça qui se réalise à chacune des messes. À chaque messe qui se célèbre sur l'autel, Jésus renouvelle ses mystères, le mystère de l'incarnation. Alors il faut que nous essayions que nous demandions à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, au roi mage, à tous ces bergers qui ont contemplé l'enfant Jésus, et bien qu'ils nous obtiennent une plus grande foi, que nous puissions toujours prendre davantage conscience que lorsque le prêtre lève l'hostie, bien c'est Jésus dans les bras. Bon, le bon Dieu ne veut pas que nous voyions l'enfant Jésus, parce que nous gagnons davantage de mérite. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc nous sommes bien plus heureux de croire sans voir. Alors demandons cette grâce à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, à tous ces saints, aux bienheureux Jean de Saint-Facon, aux bienheureux Jean d'Alverne, eux qui ont eu la grâce de comprendre un peu plus, de voir davantage. Voyez. Et bien que Dieu du ciel, il demande au bon Dieu, à la Sainte Vierge, ses grâces de pouvoir comprendre. Et lorsque vous recevrez la communion, pensez que vous recevez le même enfant Jésus que les rois mages ont vu, ont adoré et ont porté dans leurs bras. Alors tâchez de bien profiter de ces chacune des messes que vous avez l'occasion, que vous avez le bonheur d'entendre. Oh oui, quelle est grande la dignité des fidèles qui peuvent assister à ces saints mystères, sous les yeux desquels ces saints mystères se renouvellent chaque fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si on vous posait la question, quel est le plus grand miracle que Dieu peut faire? Qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce que ça peut bien être le plus grand miracle que Dieu peut faire? Peut-être, vous pensez, si le bon Dieu disait à toutes ces montagnes du Valais, hop, allez vous jeter à la mer, puis que tout d'un coup elles s'en iraient se jeter à la mer, puis il n'y aurait plus de montagnes. Ce serait un gros miracle, ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ressusciter les morts? C'est quelque chose d'impressionnant, ça. Mais quel est le plus grand miracle que Dieu peut faire? faire le monde entier, dire toc, je veux qu'il y ait les étoiles, la lune, le soleil, les planètes, les galaxies. C'est un gros miracle, ça. À partir de rien, c'est ce qu'il a déjà fait d'ailleurs. Et non, c'est pas encore ça le plus grand miracle. Quel est le plus grand miracle? Ah, vous me direz, c'est la messe. Le plus grand miracle, c'est la messe, c'est Dieu qui s'incarne. Et non, c'est pas encore le plus grand miracle. Alors là, ça devient difficile alors. Qui c'est qui peut nous donner cette réponse? Eh bien, c'est saint Thomas et puis un pape qui s'appelait Grégoire, saint Grégoire, qui nous disent que le plus grand miracle que Dieu peut faire, c'est de donner la vie divine à une âme qui a perdu cette vie divine par le péché. C'est ça le plus grand miracle? Il y aura pourtant des choses plus extraordinaires que ça. Et non. C'est le plus grand miracle que Dieu peut faire, nous dit saint Thomas et saint Grégoire. Qu'est-ce que c'est qu'une âme qui retrouve la vie divine qu'il aurait perdue? On appelle ça la conversion d'un pécheur. Et oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour Dieu. Pourquoi? Pourtant, Dieu est tout puissant. Rien ne peut lui résister. Et oui, il y a quelque chose qui peut lui résister. C'est le pécheur qui ne veut pas se convertir. Pourquoi c'est le plus difficile? Parce que Dieu nous a créés libres et qu'il ne peut pas aller contre notre liberté. Celui qui dit « je ne veux pas me convertir, je veux rester dans mon péché, je veux continuer de faire mes péchés », Dieu ne peut pas le convertir. Et aujourd'hui, nous avons cette belle conversion, la conversion de saint Paul, Saul. Vous avez bien entendu ce récit de l'Épître, là, qui est tiré des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est un livre que vous trouvez dans la Sainte Écriture, dans l'Évangile, après les quatre évangélistes. Vous savez qu'il y a quatre évangélistes qui ont écrit la vie de Jésus. Et après la vie de Jésus, il y a un des évangélistes qui s'appelle Saint-Luc, qui a écrit un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Et là-dedans, l'évangéliste écrit tout ce qui a été fait après que Jésus est monté au ciel. Comment les apôtres sont allés dans le monde pour parler de Jésus, pour fonder l'Église, pour dire aux gens, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, etc. Et dans ce livre des Actes des Apôtres, eh bien, on a ce beau récit de ce Saul qui était un juif de Tarse, mais qui était un pharisien. Il aimait le bon Dieu, il était zélé pour le bon Dieu, il avait été à Jérusalem suivre les cours de Gamaliel, c'était un docteur de la loi, et puis il aimait Dieu, alors il ne pouvait pas supporter de voir ces chrétiens, parce qu'il avait pas compris. Vous voyez, il n'avait pas encore compris ce que c'était que le christianisme. Alors lui, il disait, Dieu a parlé à Moïse, et donc il faut croire maintenant, il faut rester fidèle à la loi de Moïse. Et qu'est-ce qu'ils viennent raconter, ces gens-là? Ils parlent d'un Jésus qui est mort sur la croix par les Romains. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne faut pas les laisser se développer. Alors, il était furieux après eux. Il allait les attraper dans les maisons, dans les synagogues, partout. S'il trouvait des chrétiens, il les enchaînait, les emmenait en prison. Et il les faisait frapper pour les faire renoncer à Jésus. Dire non, vous dites maintenant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Alors, et les premiers chrétiens ont beaucoup souffert à cause de Saul. Beaucoup souffert. Mais lui, il n'avait pas compris. Voyez, il ne se rendait pas compte. Jusqu'au jour où, comme il a été dit aujourd'hui, il est parti à Damas, il avait été voir le grand prêtre en disant, voilà, je vais aller à Damas et je sais qu'il y a des chrétiens là-bas. Donnez-moi des papiers pour que je puisse aller les enchaîner. Alors il avait reçu les papiers avec les encouragements, et puis avec tout le succès possible. Et voilà qu'il va sur ce chemin de Damas. Et là, il tombe du cheval, bien sûr, par la puissance de la grâce de Dieu. Et il entend Dieu qui lui parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et vous connaissez tout ça, vous avez entendu. C'est la conversion de saint Paul. Pourquoi, comment Dieu est arrivé à convertir Saul? Eh bien, on doit cette conversion de Saul aux souffrances de tous les chrétiens, et tout spécialement au martyr de saint Étienne. Saint Étienne qui était aussi un juif qui avait été suivre les cours de Gamaliel, mais lui, il a reçu la grâce de comprendre et de devenir chrétien. Alors, il parlait partout de Jésus. Il disait aux juifs, mais non, vous êtes dans l'erreur. Regardez bien dans la Sainte Écriture, il est annoncé que Jésus doit venir. Eh bien, ce Messie annoncé, c'est Jésus qui est mort sur la croix, qui a été tué par les Romains. Alors, il disputait avec eux, et les juifs, ils n'arrivaient pas à répondre, tellement il était intelligent, parce que c'était le Saint-Esprit qui l'éclairait. Alors, les juifs l'ont poussé dehors de la ville, en criant et en le tuant à coups de pierre. Ils lui ont lancé des pierres dessus, jusqu'à ce qu'il est mort. Et Saul était là. Saul était là. Il gardait les habits de ceux qui jetaient les pierres. Et il participait. Il était tout à fait d'accord qu'on tue Étienne, saint Étienne. Et saint Étienne en mourant, eh bien, il a dit, il a prié. Prié pour tous ceux qui le tuaient, qui étaient ses bourreaux. Eh bien, voyez, toutes les souffrances des premiers chrétiens qui étaient emmenés en prison par Saul, qui étaient flagellés, tout ça. Les chrétiens, au lieu de se révolter, eh bien, ils offraient tout ça à Dieu. Ils offraient pour leur bourreau. Ils disaient, eh bien, oh mon Dieu, on vous offre toutes ces souffrances pour que vous obteniez une grâce, cette grâce si difficile à obtenir, d'éclairer les âmes de ces pauvres pécheurs et de les convertir. Et ils ont obtenu bien des conversions, et entre autres celle de saint Paul. Voilà. C'est un grand... Vous voyez, la conversion d'une âme est très, très difficile. Pourquoi? Bien parce que les pécheurs, ils sont devenus des esclaves du diable. Le diable les tient attachés à leur passion. À certains, ils aiment tellement l'argent qu'ils ne peuvent pas se dépasser, ils peuvent pas se défaire de leur argent. Alors le diable les tient, voilà, par là. Et comme ça, quand ils meurent, ils sont attachés au diable. Et ils tombent en enfer. Ils ne peuvent pas aller au ciel, ceux-là. Parce qu'ils ont perdu la vie divine. Ou il y en a d'autres qui sont attachés à l'impureté. Alors, le diable les tient par ça. Ils recherchent les plaisirs, tout ça. Alors, quand ils meurent, ils sont attachés au diable et ils tombent en enfer. Et Dieu n'arrive pas à les sortir de là. Alors, c'est pourquoi il nous faut, nous aussi, faire comme les premiers chrétiens. Faire des petits sacrifices. Prier. Pour les pauvres pécheurs, si on prie le bon Dieu, qu'il donne une grâce spéciale, une grande grâce aux pauvres pécheurs, qui voient clair et qui disent, ben maintenant ça suffit, j'arrête de mener une vie contre, de ne pas observer les commandements de Dieu, et ils peuvent se convertir. Le bon Dieu. Alors c'est nous qui pouvons demander ces grâces au bon Dieu. Comme les premiers chrétiens l'ont fait, par vos petits sacrifices. Ils ne sont pas inutiles, vos petits sacrifices. Voyez. Ils sont très précieux. Et par exemple, quand vous arrivez à la maison, au lieu d'aller tout de suite voir vos jouets, vous dites, vous allez voir maman, puis vous dites, maman, est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Tiens, je vais te mettre la table. Oh, je n'ai pas l'envie de faire ça, mais je vais le faire quand même. Si vous faites ça, c'est un petit sacrifice, et il y a une âme qui se sauvera. Je vous avais raconté cette histoire. Il y avait une fois une religieuse qui devait faire quelque chose qu'il... Oh, elle n'aimait pas faire ça. Elle ne voulait vraiment pas faire ça. Puis la supérieure lui a dit, écoutez ma sœur, si vous pouviez me rendre service, ce serait très gentil de faire ceci. Oh, elle ne voulait vraiment pas faire ça. Ah non, ça je ne peux pas supporter, c'est trop dur. Ça c'est trop dur, je ne peux pas. Puis au bout d'un moment, elle réfléchit, puis elle se dit, après tout, eh bien je le ferai par amour pour Jésus. Alors elle dit, oh Jésus, bien oui, je n'ai pas l'envie du tout de faire ça, mais pour vous faire plaisir, oh Jésus, je le fais. Pour sauver une âme, je le fais. Bien Jésus est apparu à la religieuse. Et il lui a dit, eh bien, parce que tu as fait ça, il y avait un pécheur qui devait tomber en enfer à cause de ses péchés. Eh bien, le sacrifice que tu as fait, elle a obtenu une grâce à ce pécheur de voir clair, de se convertir, de faire un acte de contrition, un acte d'amour, de se confesser. Et elle a échappé à l'enfer éternel à cause de ça. Voyez. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile aux pécheurs de se convertir, il faut une grâce toute spéciale. Et c'est nous qui pouvons, eh bien, par nos prières, nos sacrifices, obtenir cette grâce. Alors, tâchez de faire tout ce que vous pouvez. Voyez, c'est le plus grand cadeau, c'est un des grands cadeaux que vous puissiez faire à Jésus. Priez pour les pauvres pécheurs, parce que c'était le souci premier de Jésus. Le plus grand souci de Jésus, c'était de sauver les âmes. Il est venu sur la terre, il a souffert sa passion. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les pécheurs soient d'accord. Dire oui, eh bien, je veux aller au ciel. Je ne veux pas aller à l'enfer, je veux me sauver. Mais ça, c'est difficile. Oui. Alors voilà, demandons cette grâce aujourd'hui à saint Paul. Demandons à saint Paul qu'est-ce qu'il en a fait après. Oh là là, saint Paul, alors il est allé après partout dans le monde. Et il en a souffert, saint Paul. Hein. On l'a flagellé, on l'a lancé des cailloux. On a cru qu'il était mort. On a dit, bon, ben, cette fois-ci, il est mort, on est tranquille, on est débarrassé de lui. Et il n'était pas mort, mais il était drôlement abîmé, le pauvre. Hein. Il en a souffert pour sauver les âmes. Il en a beaucoup converti les âmes. Voyez. Bien, nous faut demander cette grâce à saint Paul. Demander à saint Paul la grâce que nous aussi sachions prier pour les pauvres pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Et que nous ayons, nous aussi, l'horreur du péché. Car le péché, c'est quelque chose de terrible. Voyez. Le péché, c'est ce qui nous attirera en enfer. Voilà, demandons cette grâce à saint Paul, et puis bien sûr à la Sainte Vierge, à tous ceux qui ont connu saint Paul, tous ceux qui ont été sauvés grâce à saint Paul, tous ceux qui ont été sauvés par la prière des premiers chrétiens, par le martyre des premiers chrétiens. Voilà, demandons à tous ceux-là de nous donner ce zèle pour prier pour les pauvres pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois que je vous avais parlé de la messe, si vous vous souvenez, peut-être vous avez tout oublié, j'espère pas, eh bien, nous avions vu que la messe, c'est le résumé de toute la vie de Jésus. Hein? Vous vous rappelez un peu de ça? Depuis l'incarnation jusqu'à l'Assomption. L'incarnation, bien, c'est Jésus qui a revêtu ses habits sacerdotaux, qui a revêtu notre chair humaine, notre corps, un corps, une chair humaine, et c'est ce qui a fait qu'il a été devenu prêtre. Pour être prêtre, il a dû s'incarner. Et puis, quand il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la bénédiction en montant au ciel. Et il a disparu. Eh bien, à la fin de la messe, le prêtre donnera la bénédiction. Puis après, il disparaîtra à la sacristie. Voilà. Bon. Il y aurait beaucoup à dire. La vie de Jésus a été pendant 33 ans. Eh bien, toute la vie de Jésus, c'était comme une messe. C'était la grande messe qu'il a célébrée. Alors nous, on a, chaque messe qu'on assiste, on a le résumé de toute la vie de Jésus. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Ça fait partie de ce fameux trésor inconnu, hélas, pour beaucoup de chrétiens, qu'on veut essayer de toujours découvrir davantage. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter un peu sur la prière de Jésus. La messe, c'est le renouvellement de la prière de Jésus. C'est Jésus qui renouvelle sa prière. On va essayer de regarder un petit peu plus près. Qu'est-ce que c'est que ça ? Prier, c'est quoi? Vous savez bien ce que c'est prier, puisque vous priez souvent. Mais vous, hein? Prier, c'est quoi? Eh bien, c'est élever notre âme vers Dieu, laisser un petit peu toutes les choses, les jouets, les soucis, les tracas, pour penser à Dieu et parler avec Dieu. C'est ça, prier. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Eh bien, on fait plusieurs choses. D'abord, on adore Dieu, on le loue, on l'honore. Ah oui, vous êtes grand, mon Dieu, c'est vous qui avez tout fait, vous êtes merveilleux. Hein? Voyez ça? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On remercie le bon Dieu. Mais oui, vous avez fait toutes ces choses. Eh bien, on vous remercie du fond du cœur. Ah oui, vous êtes bien bon, mon Dieu. Voyez? Ça, c'est aussi prier. Et puis, on demande pardon. Oh, vous savez, vous avez tellement gâté, mais malheureusement, nous, on ne vous a pas gâté. Voyez, on vous a bien souvent offensé, on n'a pas été... On n'a pas toujours été obéissant. Alors, puis on vous demande pardon. Ça, c'est aussi prier. Quand on fait le confiteo, quand on fait l'acte de contrition, c'est prier aussi. Et prier, c'est ce qu'on fait souvent. C'est demander au bon Dieu des grâces, ou de, qui nous aide, ou qui nous obtienne chose ou autre. Voilà. Prier. Eh bien, à la messe, eh bien, c'est Jésus qui prie, qui adresse sa prière à Dieu le Père. Déjà, il le faisait sur la terre, vous vous souvenez, je vous avais dit en gros, que souvent Jésus se retirait la nuit pour aller prier sur une montagne. Il allait au jardin des Oliviers prier. Et quand il est allé au temple à 12 ans, qu'est-ce qu'il est allé faire au temple? Il est allé prier. Pour qui il priait? Pour lui? Non, il ne priait pas pour lui. Mais pour nous, il priait. Il pensait à chacun de nous. Il priait pour tous les hommes. Il priait pour l'œuvre du salut qu'il venait réaliser. Voyez, quand on connaît des personnes qui sont très amies de Dieu ou des saints, qu'est-ce qu'on fait? On va des fois chez eux et puis on dit, écoutez, vous êtes un grand ami de Dieu, vous ne voulez pas prier un peu pour moi? Parce que j'ai besoin d'une grâce, puis moi mes prières ne sont pas très très valables parce que je ne suis pas tellement un grand ami de Dieu. Mais vous, quand les gens allaient voir Saint-Nicolas de Flux, ils disaient, oh s'il vous plaît, priez pour moi, faites une prière pour moi. Et ils étaient exaucés. Ils étaient tranquilles. Ils disaient, oh, lui, il va prier pour nous. Ça y est, le bon Dieu va l'exaucer et va obtenir pour nous une grande grâce. Et ça arrivait comme ça. Les saints, quand ils priaient pour les autres, ils obtenaient des grandes grâces. Eh bien, voyez, nous avons besoin aussi de quelqu'un qui prie pour nous, Dieu le Père. Eh bien, c'est Jésus qui le fait. Et la prière de Jésus, elle est très efficace. Voyez, par exemple, un jour, les gens de Ninive faisaient tellement de péchés. Ils en faisaient toute la journée, et même en dormant. Ils faisaient continuellement. Et ils étaient des gros pécheurs. Alors le bon Dieu était fâché. Parce que le péché offense le bon Dieu. Il s'est dit, cette fois-ci, ça suffit. Ils font trop de péchés, je vais châtier cette ville. Alors il dit à Jonas, tu vas pas courir toute la ville, et tu vas dire, dans 40 jours, Dieu va châtier votre ville. Et c'était grand, Ninive. Jonas a dû marcher pendant 3 jours pour traverser la ville. Eh bien, mes amis, c'était une grande ville, hein. Alors Jonas va, il parcourt la ville et il dit, dans 40 jours, Dieu va détruire cette ville. Vous faites trop de péchés, vous offensez le bon Dieu par vos péchés. Les gens de Ninive étaient des païens. Alors, le roi de Ninive dit, ça va plus. Alors il dit, non, non. Il faut qu'on change. Et il fait donner des ordres à tous les gens de la ville. Il dit, écoutez, maintenant ça suffit, on va faire pénitence, on va s'humilier et on va prier le Seigneur pour qu'il nous épargne de nous châtier. Eh bien, voyez, le roi Ninive était un païen, il s'est humilié, il a prié et Dieu a exaucé sa prière. Alors, voyez comment la prière de Jésus doit être encore plus puissante. Lui aussi, Jésus s'est humilié. Comment il s'est humilié? En prenant une nature humaine, en se laissant maltraiter par tous ces soldats qui se sont moqués de lui, il a été humilié, on lui a craché dessus à Jésus. Eh bien, à l'autel, Jésus est là, tout avec ses saintes plaies, puis il dit, voyez, ô Père éternel, par les mérites de mes plaies, je vous supplie, ayez pitié de ceux qui assistent à la messe, donnez-leur des grâces. Et vous croyez qu'il n'écoute pas le bon Dieu cette prière? C'est sûr qu'il l'écoute. Et si un jour, la Sainte Vierge venait sur la terre, puis qu'elle vous dirait, ne vous inquiétez pas, je vais prier pour vous, mon fils, pour qu'il vous obtienne d'aller au ciel un jour. Ne vous inquiétez pas, je vais prier tous les jours, je vais supplier mon fils pour qu'il vous fasse entrer au ciel un jour. Qu'est-ce qu'on dirait si la Sainte Vierge nous disait ça? On dirait, eh ben maintenant, on est tranquille. On a quelqu'un qui est très puissant, et qui s'occupe de notre âme pour nous faire entrer au ciel. On est tranquille. Voyez, par exemple, les enfants de Fatima. Un jour, la Sainte Vierge leur a montré l'enfer. Et ils ont tellement été effrayés qu'ils se sont mis à crier. Alors les gens qui étaient venus pour voir, ils ont entendu ces cris, mais ils n'ont pas vu l'enfer. Alors ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Et après la vision, les gens ont demandé aux enfants de Fatima, « Mais pourquoi vous avez crié comme ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Alors là, les enfants ont dit, la Sainte Vierge nous a montré l'enfer. Et c'était si horrible que si elle ne nous avait pas promis de nous prendre au ciel, on serait mort de frayeur. Eh bien, les enfants de Fatima étaient confiants. Ils ont dit, la Sainte Vierge nous a promis de prendre au ciel, on est tranquille. Voyez. Alors combien plus Jésus, qui à la messe, prie pour chacun de nous. Oui, on peut se dire chacun, en assistant à la messe, maintenant, Jésus fait une prière à son Père éternel pour moi. Oui. Vous comprenez combien c'est important, donc, la messe. C'est vraiment le moment le plus important, puisque c'est la plus grande des prières. Ce n'est pas un saint qui prie pour nous, c'est le Fils de Dieu qui prie son Père éternel pour nous. Oui. Et alors nous? Alors on se dit, ben chic, on a quelqu'un qui prie pour nous, alors on n'a plus besoin de prier, c'est formidable ça. Ah non, ça ne va pas ça, si on fait comme ça. Voyez. Il faut qu'on unisse nos prières à celles de Jésus, et alors elles auront de la valeur. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, si vous prenez, il y a des, autrefois on avait des pièces de 1 centime, un demi-centime, un centime et demi, ça fait quelque temps en arrière. Puis c'était des pièces en cuivre, ça n'a pas beaucoup de valeur, un morceau de cuivre qu'on a frappé dessus la petite pièce, ça n'a pas grand-chose. Si vous allez au magasin avec un centime ou un demi-centime, ils vous rigolent, puis vous repartez à la maison avec votre centime et même pas un bonbon, parce que le bonbon est plus cher qu'un demi-centime, alors vous vous rendez compte, c'est pas grand-chose. Mais si vous trempez le centime dans de l'or, et puis que vous ressortez le centime tout entouré d'or, ah ben alors ça va changer. Le centime aura une grande valeur. Alors vous allez au magasin avec votre centime qui a été trempé dans l'or, ah oui, alors là vous recevez beaucoup de choses, voyez. Eh bien, c'est une petite idée. Quand nous prions, notre prière, bon, elle n'a pas la valeur de la prière de Jésus. Mais si on unit notre prière à celle de Jésus, c'est comme si on trempe le centime dans l'or. Alors il a la grande valeur, le petit centime. Eh bien, notre prière qui est unie à celle de Jésus, elle aura une grande valeur. Voyez. Alors il faut que vous compreniez bien que la messe est une grande, c'est vraiment un grand trésor. C'est la grande prière que Jésus adresse à son Père pour ceux qui assistent. Pour ceux pour qui on offre la messe. Vous savez que on offre les messes, les gens disent, ben voilà, moi il faudrait, est-ce que vous ne voulez pas prier une messe pour telle personne? Alors je vous donne une honoraire pour cette prière. Où je vous avais raconté l'histoire de cette veuve qui était tombée malade, enfin cette pauvre dame qui était tombée malade, qui était couturière et qui avait mangé toutes ses économies. Vous vous rappelez? Hein? Si, vous devez vous rappeler. Il ne restait plus que 5 francs à la fin. Et puis, elle dit, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien, j'ai plus rien à manger, j'ai plus de pain, plus de beurre, plus de confiture, plus rien. Mais j'ai plus que 5 francs. Et elle avait l'habitude de donner tous les mois une messe pour les âmes du purgatoire. Et puis ce matin-là, elle sort, elle était un peu, pas tout à fait encore remise de sa maladie. Personne ne lui avait donné du travail parce qu'elle était tombée malade, une maladie contagieuse, alors on ne voulait pas aller la trouver, sinon on attrapait la maladie, alors ce n'était pas intéressant. Alors personne n'allait lui donner du travail, elle n'avait plus de travail, plus rien. Alors elle sort le matin, dit, ben, je vais faire des commissions avec mes 5 francs qui restent, je vais acheter un morceau de pain et je vais essayer de chercher du travail. Et puis, en marchant dans la rue, elle entend sonner les cloches de l'église, puis elle dit, oui, j'ai depuis longtemps plus donné de messe pour les âmes purgatoires. Aïe, 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 qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, j'étais malade pendant des mois, j'ai plus pu. Mais, j'ai plus que 5 francs. Bon, ben, aujourd'hui, j'irai assister à la messe pour l'âme purgatoire qui est le plus près de sortir du purgatoire. J'irai assister à la messe, puis avec ces 5 francs, j'irai acheter après un peu à manger. Puis comme ça, au moins, j'ai quand même fait quelque chose. Et puis, en marchant, elle se dit, mais tu devrais quand même donner pour les messes. Tu avais promis de faire ça. Tu le faisais, tu n'as pas fait depuis longtemps. Oui, mais j'ai plus que 5 francs. Et puis ça coûtait 5 francs la messe. Alors si je donne mes 5 francs pour la messe, j'aurai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire avec ça alors? J'aurai plus rien à manger. Ah, j'aurai bonne mine. Bon. Alors elle va à l'église et puis elle était poussée par cette idée. Alors elle va, courageusement, elle va voir le curé. Ah, puis après tout, les âmes purgatoires, elles souffrent beaucoup plus que moi si j'ai faim. Alors, ça leur fera plus de bien à elles de les soulager par une messe que moi d'aller m'acheter un peu à manger. Et puis, on verra bien pour le reste. Alors elle va voir le curé. Puis elle dit, monsieur le curé, vous allez monter à l'hôtel, offrir la messe. Est-ce que vous avez déjà une intention? Alors il dit, ah non, aujourd'hui j'ai pas d'intention. Oh, monsieur le curé, est-ce que vous voudriez pas dire cette messe pour l'âme du purgatoire qui est la plus près de sortir du purgatoire? Voilà, afin que Jésus prie son Père pour délivrer cette âme de cette peine du purgatoire. Alors qu'il lui dit, ben, très volontiers. Voilà, alors elle donne les 5 francs, très bien. Et puis elle profite d'assister à la messe. Puis après la messe, elle sort de l'église. Ben maintenant, voilà. Bon, elle était contente d'avoir fait ça pour l'âme purgatoire, mais elle n'avait plus rien à manger. Alors elle rentre chez elle, enfin, tout en regardant s'il trouvait du travail, et elle rencontre un jeune homme sur la route. Puis qui la salue avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de politesse, et qui lui dit, est-ce que vous cherchez du travail ? Ah, ben vous tombez bien, monsieur. Ah oui, je cherche du travail. Est-ce que vous en connaîtriez ? Oui, allez à telle rue, à tel endroit. Alors il va, et puis il regarde la rue, ah voilà la rue, et le numéro des maisons, ah voilà, c'est cette maison-là. Et elle va pour ouvrir le portail, tout d'un coup elle voit arriver comme une bombe là, une dame toute en colère, les cheveux n'importe comment, qui passe devant parce qu'elle marche sur les pieds, sans, elle la bouscule avec ses sacs au bras, et même pas dit, bonjour madame, oh la pauvre, en colère, elle n'a même pas répondu à la salutation. Bon. Un peu surpris, c'est un drôle de maison ici, je ne sais pas si je vais bien aller voir ici, parce qu'alors, s'il y a des gens comme ça, c'est pas très très intéressant. Alors, bon, elle va sonner, et puis une noble dame sort, digne, une dame âgée. Bonjour madame, dites-moi, est-ce que c'est vrai que vous auriez besoin de quelqu'un, que vous cherchez quelqu'un ? La dame est toute surprise, puis elle dit, mais oui, mais comment vous savez que j'ai besoin de quelqu'un ? Voilà que je viens de renvoyer ma servante parce qu'elle était incorrecte, mal polie, et faisait les choses elle faisait mal les choses, alors je l'ai renvoyée. Ah, c'est pour ça qu'elle était tellement en colère. Et puis, elle dit, entrez donc, mais comment savez-vous, il n'y a personne, je viens de renvoyer, j'ai dit à personne que j'avais besoin du travail. Alors entrez donc, et puis on va voir un peu la chose, puis asseyez-vous, elle met la place dans le salon, puis elle dit, est-ce que vous aimeriez prendre quelque chose, que vous voulez que je vous fasse un petit café, un peu de tisane? On dit, ah, volontiers. Bon, et là, elle se dit, eh ben le bon Dieu est bien bon, elle me donne quelque chose à manger, bon, j'ai au moins mon petit déjeuner aujourd'hui. Et puis elle dit, eh bien, asseyez-vous, puis je vais préparer. Et puis pendant qu'elle va préparer, cette dame regarde un peu, puis elle voit un tableau. Mais voilà, mais c'est le jeune homme que j'ai rencontré tout à l'heure. Ah ben, eh ben quelle coïncidence. Voilà, ah ben, bien sûr, il pouvait savoir qu'elle avait besoin de quelqu'un, puisque c'est quelqu'un de la famille. Et puis bien, la dame revient, puis elle dit, expliquez-moi, comment ça se fait que vous saviez que j'avais besoin de quelqu'un ? Je dis, non, madame, c'est pas compliqué, regardez, c'est ce jeune homme qui m'a dit, je l'ai rencontré tout à l'heure sur la rue, il m'a dit que si j'avais besoin du travail, j'avais qu'à venir à tel endroit, à telle adresse. La dame, elle vient toute pâle. Elle ne peut plus parler. Puis elle dit, mais vous êtes bien sûr de ce que vous dites ? Ah, mais madame, je suis sûr. Je suis aussi sûr que je suis ici. Que c'est bien elle, que c'est bien ce jeune homme qui m'a dit de venir ici. Puis elle dit, mais c'est pas possible. Mais pourtant, je ne peux pas, j'ai pas oublié mes lunettes, je ne porte pas de lunettes, alors je vois bien assez clair comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est mon fils qui est mort il y a quelques années. Il était tellement gentil qu'on a pensé qu'il était tout de suite au ciel. Mais comment est-ce qu'il a pu vous apparaître ? Alors expliquez-moi un peu. Alors elle a raconté qu'il avait été à la messe, qu'elle avait donné pour la messe d'un purgatoire qui était prête à sortir du purgatoire. Alors la maman a dit, eh bien nous, on n'a pas pensé de prier pour lui. Eh bien vous, par ça, vous avez délivré mon fils du purgatoire. Eh bien, désormais, vous ne serez pas une servante ici, mais vous serez comme ma fille. Et quand je ne serai plus là, tout ce qui est à moi sera à vous. Voyez. Et elle a tout reçu. Elle avait plus de soucis. Vous voyez comment. Eh bien, la puissance de la prière de Jésus. Elle avait obtenu la délivrance de cette âme du purgatoire. Et puis, cette personne qui a fait ce sacrifice pour offrir la messe, eh bien, elle a été récompensée plus que si elle avait trouvé un peu de travail. Elle avait plus de soucis. Voyez. Voilà, alors il faut que chaque messe que nous assistons, nous en profitions. Voyez. Que nous sachions bien que c'est vraiment un trésor qu'un grand trésor. Ça doit être notre seul trésor qui a de la valeur. Trésor caché. Voyez. Alors demandons à la Sainte Vierge, eh bien, de nous unir, d'unir nos prières à celles de Jésus. Comme ça, notre petite prière sera trempée comme cette petite pièce dans de l'or, et elle aura une grande valeur aux yeux de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui une toute grande fête, oui. L'Annonciation. Vous avez fait attention à la lecture de l'Évangile qui nous raconte ce si beau récit. C'est Saint Luc qui nous raconte cela. Et comment Saint Luc connaissait-il tout cela? Eh bien, Saint Luc a beaucoup posé de questions à la Sainte Vierge. Il lui a demandé un peu comment tout s'était passé. Alors elle lui a raconté et il l'a mis par écrit dans son Évangile. C'est pour ça qu'on connaît tous ces détails, ce si merveilleux passage de l'Évangile. L'Annonciation, voilà. Dieu, qui voyait que tous les hommes étaient perdus, et oui, depuis le péché originel, tous les hommes étaient perdus, plus personne ne pouvait entrer au ciel, c'était fini. Oui. Et puis les hommes faisaient beaucoup de péchés, pensaient beaucoup le bon Dieu. Il faisait beaucoup de peine au bon Dieu. Et le bon Dieu ne savait pas tellement quoi faire. Il s'est dit, qu'est-ce que nous aurions fait à la place du bon Dieu? On dit, ben, cela alors, hein, il faut les exterminer, comme ça après c'est fini, on n'en parle plus, ils ne nous font plus de misère. Eh bien non, ce n'est pas les pensées du bon Dieu. Le bon Dieu, il a une façon de faire bien différente de nous. Comme l'homme s'était révolté contre Dieu, vous voyez, par l'orgueil, eh bien le bon Dieu a voulu lui trouver une solution la plus parfaite, la meilleure des solutions. Quelle est la meilleure solution? Eh bien, il décide de venir sur la terre pour nous sauver. Au lieu de nous abandonner, de dire, bon, tant pis, qu'il se débrouille, je m'en occupe plus de... Non, il vient sur la terre pour nous sauver. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, voyez, il a choisi cette grande vertu d'humilité. D'abord, il a cherché sur la terre la personne qui était la plus humble. Oui. Et qui était cette personne qui était la plus humble? La Sainte Vierge. Il n'y avait personne qui pouvait être aussi humble que la Sainte Vierge. Alors, le bon Dieu a choisi la Sainte Vierge. Une fois qu'il a trouvé la Sainte Vierge, il a préparé, il lui a donné de belles qualités, et surtout cette vertu d'humilité, la vertu de pureté, voyez. Et il a envoyé son ange, son messager, l'ange qui s'appelait Gabriel. Vous savez que les anges sont au service du bon Dieu, il y en a des quantités et des quantités, et tous rendent service au bon Dieu. Alors ils font différentes choses, et entre autres, Gabriel a été envoyé pour être le messager. Il alla dans une petite ville de Nazareth. Nazareth, c'était en Galilée, un peu au nord de la Palestine. C'était un petit village où habitait la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'elle faisait là, la Sainte Vierge? Eh bien, la Sainte Vierge était mariée avec Saint Joseph. Mais elle aimait tellement le bon Dieu qu'elle lisait beaucoup la Sainte Écriture. Tout ce qui était du bon Dieu, elle lisait, elle s'en pénétrait, elle se nourrissait. Elle lisait beaucoup la Bible parce qu'elle se disait, la Bible, c'est les lettres du bon Dieu. Le bon Dieu nous a envoyé des lettres, et bien, dans ces lettres, il nous lit des choses très intéressantes, très intéressantes. Alors, elle aimait à lire la Bible, à méditer, elle y pensait souvent. Et dans la Bible, il y a beaucoup de choses. À ce moment-là, quand la Sainte Vierge, du temps de la Sainte Vierge, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a encore tout le Nouveau Testament en plus qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Mais il y avait déjà énormément de choses et il y avait beaucoup de prophéties. Et comme elle était très très intelligente, la Sainte Vierge, parce qu'elle n'avait pas eu le péché originel. Alors elle avait une intelligence remarquable. Vous voyez, elle n'était pas... Non, on a toujours la peine à apprendre les choses que l'on doit étudier. On a toujours un peu de peine. Mais la Sainte Vierge n'avait pas de peine, puisqu'elle n'avait pas le péché originel. Alors elle connaissait très bien Sainte Écriture, elle connaissait les prophéties, et elle savait que, ça y est, c'était le moment où le bon Dieu allait envoyer le Messie, tant attendu. depuis longtemps annoncé. Elle savait, mais elle ne savait pas qui est-ce qui allait être la maman de ce Messie. Alors elle se disait au fond de son cœur, « Oh, c'est bientôt le moment. Oh, que le bon Dieu, si le bon Dieu pouvait me faire connaître qui c'est qui serait la maman de ce Messie, j'irais tout de suite auprès d'elle pour m'offrir et offrir des services, pour rendre service, faire la vaisselle, faire le ménage, tout ça, pour qu'elle puisse s'occuper de ce Messie. » Et voilà qu'elle était tout en train de penser à ça, de lire la Sainte Écriture, que l'ange Gabriel arrive chez elle. Et il la salue. Vous connaissez cette belle prière que vous dites si souvent. C'est là qu'il l'a adressée de la part de Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Eh bien, chaque fois que vous dites ces paroles, vous donnez une grande joie à la Sainte Vierge parce que vous lui rappelez lorsque l'ange est venu lui adresser cette salutation. Et c'était un des grands moments de la Sainte Vierge. Et bien, chaque fois que vous dites « Je vous salue, Marie, pleine de grâce », vous prononcez les paroles que l'ange lui a adressées. Et elle a chaque fois une grande joie. C'est pour ça que le « Je vous salue, Marie » est une grande prière. Puisque vous rappelez les paroles que l'ange a adressées à la Sainte Vierge de la part du bon Dieu, les paroles qui viennent du bon Dieu. Et Salé que nous dit, la Sainte Vierge se troubla. Oh, elle se troubla, pourquoi? Pourquoi elle se troubla de ce que l'ange lui a adressé ses paroles? Eh bien, parce que la Sainte Vierge était tellement humble que quand elle a entendu ces paroles, qui étaient en somme des louanges, l'ange faisait des louanges à la Sainte Vierge. Alors elle s'est dit, oh, qu'est-ce que ça signifie? Il faut se méfier. Quand quelqu'un nous fait des louanges, il faut toujours se méfier. Vous voyez? Parce que il peut y avoir un piège là derrière. Il faut toujours se méfier. Des fois, c'est pour nous attraper mieux. Alors la Sainte Vierge s'est méfiée. Elle était tellement humble qu'elle pensait qu'à Dieu. Elle admirait Dieu de tous ses bienfaits, de toutes ses merveilles. Elle s'était rendue compte, elle se rendait très bien compte, que tout ce qu'elle était, elle, ça venait du bon Dieu. Si elle avait une intelligence, si elle avait des qualités, elle savait que tout cela venait du bon Dieu. Qu'elle n'était pour rien. C'était le bon Dieu qui l'avait comblée de bienfaits, elle le savait. Alors elle était tellement reconnaissante envers le bon Dieu, tellement pleine du bon Dieu, qu'elle s'oubliait bien souvent pour ne penser qu'au bon Dieu. Et voilà que l'ange vient lui faire des louanges. Alors, elle avait l'habitude de dire, mais c'est pas à moi que les louanges doivent être faites. Les louanges doivent être faites au bon Dieu, puisque tout ce qui est bien en nous vient du bon Dieu. Alors, c'est pas normal qu'il fasse des louanges. C'est peut-être parce qu'elle savait pas d'abord qui c'était, hein, parce que vous savez que le diable, des fois, il se présente sous les formes de l'ange, d'un ange, hein, pour mieux nous attraper. Alors, elle s'est dit, qui c'est celui-là? Est-ce que c'est un bon ange? Est-ce que c'est un mauvais ange? Alors, elle était un petit peu troublée. Et l'ange, quand il a vu qu'elle était troublée, lui a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas, Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voilà. Le bon Dieu vous a choisi pour être la mère du Messie. Ah. Elle qui attendait, qui aurait voulu savoir qui était la mère du Messie, voilà que l'ange lui dit qu'elle serait, elle, la mère du Messie. Voilà. Qu'elle avait été choisie par Dieu. Alors, elle se dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque j'ai fait un vœu, j'ai fait le vœu de virginité, alors je ne veux pas devenir mère. Comment cela se fera-t-il? Alors l'ange la tranquillise et lui dit, ne crains pas. Le bon Dieu s'occupera de cela, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Voilà, il suffit que tu dises oui. C'était un grand moment cela. Si la Sainte Vierge avait dit non, qu'est-ce qui se serait passé? Une catastrophe? Le bon Dieu ne serait pas venu sur la terre? Jésus ne serait pas venu sur la terre? Et alors on n'aurait pas été sauvés? Mais voilà, la Sainte Vierge qui aimait tellement le bon Dieu, elle ne voulait qu'une chose, toujours faire plaisir au bon Dieu, toujours faire ce que le bon Dieu voulait. C'était son seul désir. Et voilà que l'ange lui fait connaître quelle était la volonté du bon Dieu. Ah, ainsi dit, bien sûr, je suis la servante du Seigneur. Quelle belle réponse, voyez. Voilà que l'ange lui dit, elle serait la mère de Dieu, C'était un beau titre, un noble titre. Oh, ce n'est pas rien d'être la mère de Dieu. Eh bien, elle dit comme réponse, je suis la servante du Seigneur. Voilà. Elle était toujours très humble, la Sainte Vierge. Elle était vraiment profondément humble. Elle ne s'est pas laissée attraper par l'orgueil. Le diable n'a pas pu la voir. Vous voyez ? Alors elle a donné cette réponse. Eh bien, nous devons être pleins de reconnaissance aujourd'hui. Grâce au oui de la Sainte Vierge, Jésus s'est incarné et il nous sauvera. Vous voyez comme quoi nous devons aimer beaucoup la Sainte Vierge. Elle aurait très bien pu dire non. Elle aurait pu dire non, moi ça vient. Parce qu'elle savait très bien qu'en devenant la mère de Dieu, oh, ce ne serait pas la vie de château, hein, qu'elle allait avoir, mais qu'elle allait beaucoup souffrir. En devenant la mère du bon Dieu, elle allait beaucoup souffrir. En faisant la volonté du bon Dieu, eh bien, on doit prendre la croix. Elle savait cela, connaissant les Écritures. Mais elle se dit, eh bien, si c'est le bon Dieu qui veut, moi je le veux toujours. Même si ça coûte cher, même si c'est pénible, même si je dois souffrir, ça fait rien. Elle a accepté. Oui. Alors, il faut que nous soyons pleins de reconnaissance envers la Sainte Vierge, d'avoir accepté, d'avoir dit oui. Et chaque fois que vous direz le Je vous salue Marie, vous penserez. Voilà, aux paroles que l'ange a adressées à la Sainte Vierge et qui a donné une grande joie à la Sainte Vierge. Et c'est là qu'a tout commencé. C'est là qu'a commencé l'œuvre de notre rédemption. En ce jour-là, le 25 mars, où le Verbe de Dieu s'est incarné. Et regardez aussi l'humilité du Verbe de Dieu, de l'humilité du Fils de Dieu. Il aurait pu venir comme un grand roi sur la terre, puisqu'il est le Tout-Puissant, il est le Dieu. Vous savez, quand il a parlé sur le mont Sinaï, les Juifs qui étaient là au pied du Sinaï ont été effrayés de l'entendre parler. Il y avait un tremblement de terre, il y avait un tonnerre, il y avait des éclairs. Ils ont été si effrayés qu'ils ont dit à Moïse, « Allez-vous sur la montagne parler avec le bon Dieu. » Nous, on est tellement effrayés qu'on a failli mourir de peur. Oui. Elle aurait pu venir comme ça sur la terre, comme un grand roi. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il a voulu venir, voyez. Il est venu dans la condition humble, tout humble. Pourquoi ? Pour guérir du péché d'orgueil. Voilà. Il y a toujours en nous cet orgueil qui ressort de temps en temps. Alors il nous faut toujours nous guérir de cet orgueil. Voilà. Et prendre l'exemple que le bon Dieu nous donne. Déjà, il choisit une maman très humble, très très humble. Et puis lui-même, il s'humilie en se faisant tout petit. Petit enfant, voilà, pour nous guérir de l'orgueil, pour nous montrer, voilà, qu'il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Au contraire, il faut se prendre pour ce que l'on est. Alors aujourd'hui, il faut que nous soyons pleins de joie pour cette belle fête de l'Annonciation et que nous sachions remercier la Sainte Vierge. Nous allons spécialement, pendant cette messe, offrir ce Saint Sacrifice pour remercier. Remercier le bon Dieu d'avoir voulu s'incarner, d'avoir choisi la Sainte Vierge, et puis aussi nous allons remercier tout spécialement la Sainte Vierge, d'avoir dit oui, d'avoir accepté de devenir la Mère de Dieu, d'avoir accepté, et ainsi par son acceptation, le Fils de Dieu est devenu homme, et il nous sauvera. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.